c'est que aujourd'hui, je ne suis pas au pouvoir, madame, je suis au travail. C'est une grande différence, et dans l'attitude, et dans l'énergie que l'on donne.
Merci beaucoup. Sans abus de pouvoir, nous allons nous mettre au travail. Donc, je vais vous proposer au vote donc, ce rapport numéro 14, hein, qui est le compte administratif 2020. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, ce rapport est approuvé à la majorité. Je vous remercie. Nous allons passer au rapport numéro 15. Oui, donc vous avez vu que le président est sorti. Voilà, merci de revenir. Le rapport numéro 15, donc c'est le budget annexe du SPANC, le service public de l'assainissement non collectif. Non, majorité, oui. Oui, oui, oui. Compte administratif 2020, monsieur Perron.
Donc, en 2020, le service SPANC a facturé un faible nombre de contrôles en raison d'une suspension de ceux-ci durant la crise sanitaire. En effet, seules 91 prestations ont pu avoir lieu pour un total, pour un montant de 10 460 euros. Ce compte administratif se clôture avec un excédent conforme au compte de gestion, donc de 25 678,79 euros. Vu l'avis favorable de la commission des finances qui s'est réunie le 31 mars, il est proposé donc au Conseil communautaire de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion de l'exercice 2020, d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
S'il n'y a pas de questions, je demande à M. Zillot de sortir. Donc, je vais vous proposer de mettre ce rapport numéro 15 au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, le rapport est approuvé à la majorité. Nous allons... Voilà, merci. Nous allons passer au rapport numéro 16, qui est le budget annexe de la, ben voilà, la zone d'activité Notre-Dame. Donc, le compte administratif 2020, monsieur Perron.
Ce budget ne retrace aucune activité pour l'année 2020. Ce compte administratif se clôture avec un excédent conforme au compte de gestion de 50 ans. En remontant à 52 250,20 euros. Vu l'avis favorable de la commission des finances qui s'est réunie le 31 mars, il est proposé au Conseil communautaire de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion pour l'exercice 2020, d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Voilà, il y a des questions. M. Zillot, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais vous mettre ce rapport numéro 16, qui est le compte administratif 2020 du budget annexe de la zone d'activité Notre-Dame. Qui s'abstient sur cette question? Des votes contre? Question adoptée à la majorité. Je vous remercie. Monsieur Zillot, vous pouvez vous revenir. Le rapport numéro 17 est le budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal, compte administratif 2020. Monsieur Perron, s'il vous plaît.
Alors, en raison de la crise sanitaire Covid-19, la compétence tourisme n'a pas pu réaliser certains éléments de son programme, foire de printemps, apéritif de bienvenue en août, animation d'Halloween et de Noël. Mais il faut quand même noter les actions autour de l'été, cinéma en plein air, animation bien-être, balade à vélo, balade vigneronne, animation nature à Patatin et à l'Île-Vieille, journée européenne du patrimoine, fête de la musique et animation en terrasse, qui ont rencontré un très grand succès. D'autre part, de nouvelles actions ont pu être menées pour valoriser le territoire. C'est la réalisation de photos et prise de vue aérienne à 360 degrés qui sont disponibles sur une carte interactive sur le site internet de l'Office de tourisme, afin de donner envie de découvrir le territoire avant même de le visiter. Enfin, à noter que la taxe de séjour encaissée en 2020 est relativement élevée et ne reflète évidemment pas l'année 2020. En effet, ce chiffre comprend beaucoup de versements effectués au titre de 2019, mais durant l'année 2020, notamment par des hébergeurs Internet. En réponse à la crise sanitaire Covid-19, la CCRLP a voté, comme la troisième loi des finances rectificative le lui permettait, une exonération de la taxe du séjour du 6 juillet au 31 décembre 2020. Ce compte administratif se clôture avec un excédent conforme au compte de gestion de 777 222,20 euros. Vu l'avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil communautaire de donner acte à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à Monsieur le Président pour sa gestion pour l'exercice 2020, d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Voilà, merci Monsieur Perron. Y a-t-il, oui, Madame Calero, des observations?
Oui, même s'il n'y a pas grand-chose à dire sur le compte administratif du tourisme, car la crise sanitaire fait que le tourisme tourne au ralenti, tout comme l'économie, je regrette tout de même qu'il y ait un manque de transparence quant au bilan de l'année touristique 2020. Je parle d'un bilan chiffré. Le seul retour que nous avons eu était l'article d'une journaliste, qui vous est favorable, dont l'intitulé était « Circuler, il n'y a rien à voir ». Car les touristes qui entraient à l'office de tourisme tout beau, tout neuf, ça c'est elle qui le dit aussi, pour avoir des renseignements sur les sites à visiter sur notre territoire, ces touristes étaient redirigés vers l'usine Haribo à Uzès ou sur la ville de Montélimar. Il est dommage que le peu de touristes qui viennent sur notre territoire soient envoyés ailleurs. Alors qu'en 2018, je vous disais que la principale demande de renseignements au Pit de Bolène était les toilettes de Vinci, vous me disiez que j'étais de mauvaise foi. Que répondez-vous à cette journaliste? Qu'elle est de mauvaise foi aussi? Non, je ne le crois pas. Vous n'avez pas souhaité me reconduire au conseil d'exploitation de l'office de tourisme, sûrement pour éviter que je me rende compte de vos faiblesses, mais tout de même, vous devez être transparent envers les contribuables. Il est de votre devoir de justifier les dépenses de ce compte administratif.
Désiré, réponse. Oui. Madame Desfonds, s'il vous plaît.
Alors, s'agissant du bilan de l'année 2020 qui a été effectivement impacté par la crise du Covid, on se rend compte qu'en réalité, malgré cette crise, l'Office de tourisme intercommunal a travaillé et a bien travaillé avec des chiffres de fréquentation sur l'ensemble de ces sites qui n'accusent qu'une baisse de 14% par rapport à 2019 et qui sont sur la période touristique qui sont supérieurs à 2018. Et ce, malgré également la fermeture de l'Office de tourisme pour travaux en novembre. Donc on est sur une fréquentation en 2020 des sites et donc de l'Office de tourisme intercommunal de 4300 personnes, ce qui est tout à fait correct pour une année impactée par le Covid, sur une fréquentation dans les animations touristiques organisées par l'intercommunalité de 2700 personnes sur cette période estivale. Là aussi, c'est un très beau chiffre, notamment pour les soirées musicales en terrasse, dont je précise qu'elles bénéficient directement à nos commerçants, restaurateurs, et qu'en cette période, c'était effectivement tout à fait bienvenu. Et par ailleurs, s'agissant du bilan et de la question de la satisfaction des personnes qui fréquentent l'Office de tourisme, l'Office de tourisme réalise en fait un bilan en donnant donc des fiches de satisfaction aux touristes qu'ils fréquentent. Et effectivement, le retour de satisfaction est plutôt positif. Et chaque fois, effectivement, qu'il y a des remarques qui sont émises, on tente de s'adapter et on tente d'améliorer les choses. Mais effectivement, l'enquête de satisfaction qui a été réalisée, qui est réalisée en fait régulièrement depuis 2018, donne des résultats qui sont là aussi plutôt satisfaisants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer, mais on y travaille très régulièrement. Et je vous le disais, le bilan de l'année 2020 n'est pas mauvais, loin de là. Au regard de la crise que l'on a connue, on a plutôt un beau bilan sur l'année touristique et sur la fréquentation de nos sites.
Merci. Donc, je vous propose de soumettre ce rapport numéro 17 au vote. Donc, merci. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, 3. Donc, rapport approuvé à la majorité. Je vous remercie. Vous pouvez vous revenir, Monsieur Zilio. Le rapport numéro 18 et le budget annexe, donc compte administratif, budget annexe, zone d'activité économique de la Croisière Sud. Monsieur Perron.
Alors, concernant la zone de la Croisière Sud, durant l'année 2020, Les aménagements nécessaires à la future commercialisation des lots ont avancé de manière significative, environ 720 000 euros dépensés, malgré un contexte sanitaire qui a bloqué les travaux durant une partie de l'année. Ce compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion de 2 241 514,09 euros. Donc, vu l'avis favorable donc, de la commission des finances qui s'est réunie le 31 mars, il est proposé donc, au conseil communautaire de donner acte à monsieur le président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à monsieur le président pour sa gestion pour l'exercice 2020 et d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Merci. Y a-t-il des questions, des observations particulières ? Non. Donc, monsieur Zillot, merci. Je vous propose donc de mettre ce rapport numéro 18 au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? La Ligue du Sud. Donc, rapport approuvé à la majorité. Je vous remercie. Monsieur Zillot, merci. Rapport numéro 19, budget annexe du pôle médical, compte administratif 2020, monsieur Perron.
Alors, durant l'exercice 2020, et malgré la conjoncture complexe, le pôle médical a continué à s'agrandir en accueillant une dermatologue, un médecin échographe, une ostéopathe, deux médecins généralistes et un autre cabinet d'infirmières libérales. Depuis le premier confinement en mars, un comptage de la fréquentation du pôle médical intercommunal a été mis en place. En 9 mois et demi, ce sont près de 50 000 appels qui ont été reçus et 35 000 patients qui sont venus consulter. À ce jour, le pôle médical compte 6 médecins généralistes, dont une spécialisée en imagerie médicale, un cabinet dentaire, un orthophoniste, deux cabinets d'infirmières, une pédiatre, une psychologue, un ostéopathe et une dermatologue. Ce compte administratif se clôture avec un excédent conforme au compte de gestion, remontant de 15 354,17 €. Vu l'avis favorable de la commission finances qui s'est réunie le 31 mars, il est proposé donc au conseil communautaire de donner acte à monsieur le président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à monsieur le président pour sa gestion et pour l'exercice 2020, d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Merci, M. Perron, de ces détails. Y a-t-il des... Oui, Mme Calero.
Oui, j'aurais une question. Quant aux charges de personnel, vous avez budgété pour 2020 50 000 euros. Or, il a été dépensé zéro. Et après, on voit sur le budget 2021 que vous mandatez encore 50 000 en charges de personnel. Alors, je ne comprends pas très bien parce que normalement, il y a il y a bien du personnel intercommunal sur le
pôle médical. C'est le trésor qui a validé ce compte de gestion et le compte administratif.
Non, mais je pose.
Donc, il est juste.
Je ne comprends pas le. Mais c'est vrai il y a bien des charges de personnel, M. Perron.
Je pense que le receveur du trésor comprend mieux que vous, mais bon.
Mais c'est une question que je pose toute simple. Je demande une réponse.
Il y a une ligne avec. Charge de personnel, chapitre 012, 50 000 euros. En fait, il n'y a pas de sortie. On se pose la question, c'est tout. Et on vous la pose. Et on espère une réponse plutôt qu'une insulte.
C'est pas une insulte. Simplement, je dis que le receveur du trésor est plus compétent, certainement, pour valider ce compte administratif.
Simplement. Quelle réponse stupide.
S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Monsieur Zillot.
Oui, je vais répondre à votre question. En effet, sur la question du personnel qui est mis à disposition sur le pôle médical, il y a du personnel qui a, je dirais, été recruté en contrat à durée déterminée, et il y a du personnel qui était dans les services de l'intercommunalité. Et donc, quand il s'est agi de l'arbitrage avec l'inspecteur divisionnaire des finances publiques, il a été retenu le fait de compter le personnel au sein du pôle médical au vu du fait qu'ils appartenaient à d'autres services pour certains, de le budgéter sur le budget général. Voilà pourquoi la consommation des crédits n'a pas été réalisée.
Voilà. Non, mais j'ai du mal. Alors, oui, pourquoi on le remet et pourquoi il y a quand même une partie de charge de personnel. Bon, après, si le trésorier l'a dit, je veux bien. Non,
c'est au même titre que le personnel qui était affecté à l'assainissement non collectif. Pendant des années, le personnel qui était affecté à l'assainissement non collectif n'était pas forcément comptabilisé dans le budget annexe de l'assainissement non collectif. C'est aujourd'hui, il a été présenté ces propositions-là. J'entends ce que vous dites. Nous avons payé le personnel comme il devait être payé. Les charges afférentes et le budget annexe émanent du budget général. Et par conséquent, il a été retenu le fait que le personnel, certains étaient à l'accueil, d'autres sont venus en remplacement, etc. Il a été affecté au budget général à la charge 012, le personnel qui est propre à l'intercommunalité. Et dans le cadre, notamment par le passé avec l'assainissement non collectif, mais ça ne se retrouve pas cette année, en ce qui concerne aujourd'hui le pôle médical, le personnel et la lecture que vous en faites a été affecté par le budget général en charge de personnel. Il n'y a pas de tour de passe-passe ou d'avoir caché quoi que ce soit. Et si ça avait été, nous avait été reproché, madame, je vous assure qu'on aurait eu, et par le compte de gestion et par le compte administratif, des remarques de la direction des finances publiques.
Progression, voilà, je ne trouvais pas logique.
Je vous ai répondu, voilà, madame.
C'est tout. Mais ne voyez pas de mal. Vous voyez le mal partout, c'est impressionnant.
Écoutez, madame, vous avez été odieuse sur les précédentes questions, madame. Je me suis tue parce que je trouvais que ça ne servait à rien de rajouter de la hauteur à ce qu'il n'y en avait pas. Et surtout que Mme Ricard avait très bien parlé, d'ailleurs je l'en remercie, pour ce qu'elle a pu dire à l'égard de la gestion de l'intercommunalité. Et je n'ai pas voulu rajouter parce que le Chicaya, la presse qui n'est pas pour nous, mais qui fait des bons articles pour nous, pour vous, etc. C'est tellement petit et de relève de l'école maternelle, fidèle à vous-même, Mme Canero, que finalement, je n'ai pas souhaité répondre. Maintenant vous me posez une question, je vous réponds, et puis voilà. Et on peut passer à autre chose si vous voulez bien.
Donc, s'il vous plaît, merci de vos questions et merci de vos réponses. Donc, si... Voilà, merci. Je vais mettre donc le rapport numéro 19 au vote. Voilà. Y a-t-il des abstentions sur cette question? Des abstentions? Des votes contre? Donc, 3 abstentions. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Zilio. Voilà. Vote à l'unanimité, Président. Donc le rapport numéro 20 et le budget annexe de la ZAC Pan-Europarc, compte administratif 2020, rapporteur Monsieur Perron.
Alors durant l'exercice 2020, donc ce budget ZAC Pan-Europarc a retracé le transfert d'une propriété acquise précédemment par le budget général de la CCRLP vers ce budget annexe et l'étude de cadrage écologique. Ce compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion de 245 204,72 euros. Vu l'avis favorable de la Commission des finances, il est proposé donc au Conseil communautaire de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion pour l'exercice 2020 et d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Donc, je vous propose, merci, de mettre ce rapport au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, rapport adopté à la majorité. Monsieur Zilio, s'il vous plaît. Donc, le rapport numéro 21 sur le budget annexe de la zone d'activité économique, la Clastre, compte administratif 2020, Monsieur Perron.
Alors, le budget ZA Clastre a retracé le transfert d'une propriété acquise précédemment par le budget général de la CCRLP vers le budget annexe et des études techniques préalables à la commercialisation pour environ 17 000 euros, études hydrauliques, études géologiques, documents d'arpentage. Ce compte administratif se clôture avec un déficit conforme au compte de gestion qui s'élève donc à 207 119,43 euros. La Commission des finances réunie le 31 mars a donné un avis favorable. Donc, il est proposé au Conseil communautaire de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion pour l'exercice 2020, et ensuite d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Et merci. Donc, y a-t-il des observations ou des questions sur ce rapport? Merci, M. Zillo. Du coup, je vais mettre ce rapport au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Rapport adopté à la majorité. Je vous remercie. Je demanderai donc au président de
nous rejoindre et de reprendre son fauteuil pour cette prochaine question.
Merci, Monsieur Sanchez. La question 22, il s'agit de l'affectation du résultat au budget principal. Monsieur Perron.
Alors, en conséquence des chiffres arrêtés par le compte administratif, il convient d'affecter le résultat du budget général. Cette affectation permet à l'excédent de fonctionnement de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Pour l'année 2020, l'excédent de fonctionnement à affecter est de 6 634 356,60 €. Et le besoin de financement de la section d'investissement est de 3 594 389,20 €. En conséquence, et vu l'avis favorable de la Commission des finances qui s'est réunie le 31 mars, il est proposé d'affecter 3 594 389,20 € au financement de l'investissement et de reporter les 3 039 967,40 € non affectés.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pardon.
Allez-y.
Non ? Mais qui ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'était ma... Non, pas de questions. Qui s'abstient ? Pardon, je croyais qu'il y avait une question, j'avais entendu parler, c'est pour ça. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 23, il s'agit du budget annexe du pôle médical, l'affectation du résultat, Monsieur Perron.
En conséquence des chiffres arrêtés par le compte administratif, il convient d'affecter le résultat du budget annexe au pôle médical. Cette affectation permet à l'excédent de fonctionnement de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Pour l'année 2020, l'excédent de fonctionnement à affecter est de 11 401,16 €, et le besoin en financement de la section d'investissement était de 3 660,39 €. En conséquence, et vu l'avis favorable de la commission qui s'est réunie le 31 mars, il est proposé d'affecter 3 660,39 € au financement de l'investissement et de reporter les 7 740,77 € non affectés.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Merci. La question numéro 24, il s'agit du vote des taux de fiscalité, Monsieur Perron.
Alors, vu l'avis favorable de la Commission finances qui s'est réunie le 31 mars, il a proposé de valider la fixation des taux d'imposition au même taux que depuis 2016, soit foncier bâti à 0%, foncier non bâti 1,45% et le CFE à 34,89%.
Ouais. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à la majorité. Question numéro 25, il s'agit du vote du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2021. Monsieur Perron.
Alors, la commission des finances qui s'est réunie le 31 mars a mis un avis favorable à la proposition des taux. Dans la commission des finances a validé la fixation des taux suivants. Zone 1, Bolène-Centre, 12%. Zone 2, Bolène-Hors-Centre, 9,94%. Zone 3, La Motte-du-Rhône, 4,40%. Zone 4, La Palue-Centre, 10,16%. Zone 5, La Palue-Hors-Centre, 5,05%. La zone 6, Mondragon et Mornas, à 8,50%. Ces taux sont maintenus depuis la prise de compétence en 2017 concernant la TVOM.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud est contre. Dossier adopté à l'unanimité. À la majorité, pardon. Question numéro 26, il s'agit d'autorisation de programme et crédit de paiement. Monsieur Perron.
Alors, plusieurs délibérations sont venues fixer les AP et les CP. Précédemment, les modifications apportées par les documents sont les suivantes. Ajout de l'année 2022 de CP sur l'AP, fonds de concours. En effet, en raison de la crise sanitaire, plusieurs dossiers qui bénéficiaient de fonds de concours ont pris du retard. En conséquence, donc, la CCRLP a modifié le règlement des fonds de concours pour leur permettre d'avoir plus de temps pour justifier leurs dépenses. Pour les mêmes raisons liées à la crise sanitaire, les AP cinéma et arts numériques et maisons du terroir se sont vus ajouter des CP pour l'année 2022. Enfin, l'AP de la maison des terroirs a été revue à la hausse et vu l'avis favorable de la commission des finances qui s'est réunie donc le 31 mars. Il est proposé donc de valider les AP et CP présentés dans la délibération.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 27. Il s'agit du budget primitif 2021. Monsieur Perron.
Alors, le budget primitif pour 2021 est conforme à ce qui avait été évoqué lors du DOB, c'est-à-dire des charges à caractère général qui augmentent très sensiblement en hausse compte tenu des charges liées à la crise sanitaire, mais aussi en raison de la prise en compte des avenants du marché de traitement des déchets à effet du 1er mai 2020. 2021 supportera donc la hausse des prix de 2020 plus le rattrapage au titre de 2020. Le chapitre 65 connaît une évolution significative. En effet, la création au 1er janvier 2020 de deux nouveaux comptes, compte 65-12, droit d'utilisation informatique en nuage, et compte 65-18, autre, fait basculer la somme destinée ordinairement à la maintenance des logiciels dans le chapitre 011. Vers le chapitre 65, environ 50 000 euros de transfert entre charges à caractère général et charges de gestion courante, ce qui n'était pas présenté dans le tableau prévisionnel du DOB. Donc les dépenses et les recettes de fonctionnement s'équilibrent donc à 35 074 716 euros. Concernant l'investissement, le programme reste identique à celui présenté au DOB, soit un total de 9 563 040 euros, en y intégrant les restes réalisés et le déficit reporté. La section des dépenses et d'investissement se clôture à 15 886 426,01 euros. En recette, outre les subventions nouvelles et celles issues des restes réalisés, il est prévu de recourir à un emprunt maximum de 4 200 000 euros pour équilibrer le financement de ces investissements. La section de recettes et d'investissement se clôture également à 15 886 426,01 euros. Vu l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 31 mars, il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget primitif présenté.
Merci. Y a-t-il des questions? Madame Bompard.
Oui. Alors, il y a quelques instants, lors du compte administratif, j'ai parlé du montant des frais de fonctionnement. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de malades. On a dû transférer... tout le personnel que nous avons transféré était... malade, à l'article de la mort, et c'est ce qui a fait que, bizarrement, les frais de personnel ont été grévés. Alors, bref. Pardon ?
J'ai dit toutes ces années.
Oui. Alors, donc, je vous disais que je parlais des frais de fonctionnement largement supérieurs à la moyenne. Non content de ce résultat, ce budget primitif vient encore aggraver le montant du fonctionnement par habitant. Je rappelle en passant que l'investissement crée de l'emploi, laisse des équipements à disposition des habitants, améliore la qualité de vie de nos compatriotes, ce qui n'est pas toujours vrai, bien sûr, pour le fonctionnement, loin s'en faut. Sur les charges de personnel, nous nous attendions à des baisses après les nombreuses mutualisations que vous avez réalisées, mais manque de chance, elles ne sont pas prévues. C'est encore et toujours la magie de votre gestion. Certains transforment le plomb en or. Vous, c'est une autre très technique, vous avez de l'or dans les mains et vous le transformez en plomb. Vous êtes à la tête d'une collectivité qui collecte énormément d'impôts. Vous recevez chaque année des masses financières d'argent public à faire rougir les autres intercommunalités de France, et pourtant, il n'y a jamais de projet qui aboutisse. Je vais revenir sur la question 26 avec les APCP pour ne faire qu'une seule intervention. Les projets inscrits dans ce budget sont les mêmes depuis 5 ans. Pour que chacun se rende bien compte, les montants sont affichés, les montants sont affichés dans les APCP. Nous aurons donc une deuxième salle de cinéma à Bolène pour 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour une salle de 30 places. À cela, vous avez adossé une salle numérique et une salle d'exposition, toujours dans des coûts faramineux, alors qu'une salle d'exposition, il y en a une, c'est Félix Ripper. Prenons maintenant la PCP des Halles de producteurs. 2,1 millions d'euros et cela sans compter l'acquisition du bâtiment et les travaux pour l'Office du tourisme. La facture finale sera à peu près à 3 millions d'euros pour une halle dans laquelle personne ne veut aller, quoi que vous en disiez, et là encore, vous faites très fort. Vous auriez mieux fait de prélever moins d'impôts sur les entreprises, les producteurs, les commerçants, et de les laisser gérer eux-mêmes leur développement, ce qu'ils savent faire, monsieur, sans vous, et depuis de nombreuses années. Vous continuez sur votre lancée, sans prendre en compte la crise du Covid et les nouvelles urgences. Vous ne corrigez pas le paradoxe d'un territoire extrêmement riche en contributions fiscales et pourtant très pauvre socialement. Vous l'avez fait pendant 6 ans avec les résultats que l'on voit et vous poursuivez dans la même veine. Exactement comme pour la logistique dont nous parlions en votre absence il y a quelques jours, vous stérilisez des hectares, ce que je n'ai jamais fait, je le répète, et si vous remontez à l'historique, vous pourrez le voir. Des hectares de terre pour une activité qui ne crée presque pas d'emploi à l'hectare, mais dont les nuisances sont énormes. Vous faites de la politique à l'ancienne, et ce sont nos compatriotes, non seulement qui payent, mais qui en souffrent. Enfin, vous affichez un très fort investissement, mais comme chaque année, nous savons déjà qu'il ne sera pas respecté. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure au compte administratif. Comme prévu au débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu il y a quelques temps, vous allez faire exploser la dette. Lorsque l'on prend en compte l'ensemble des budgets primitifs contenus dans les questions suivantes, on pourrait s'y méprendre, mais les propos que je vais citer ne sont pas ceux de mon équipe, ni ceux de la Ligue du Sud, mais ce sont ceux de M. Lambertin, il y a quelques temps, président qui a été président donc de l'intercommunalité, que vous avez d'ailleurs largement cloué au pilori sur la gestion de la ZAND, mais on a vu que vous n'avez pas fait beaucoup mieux quand même. Hein. Et monsieur, qui est actuel vice-président, lors d'un conseil municipal tenu à la Palue. Je cite, « À l'intercommunalité, on nous a dit la même chose. On ne peut pas donner de dotation parce qu'on est en difficulté. » Les banques refusent de nous prêter et puis le président de la commission des finances découvre avec inquiétude l'héritage que vous lui laissez. C'est lui qui le dit. Hein. Vous m'avez reproché d'avoir laissé 24 millions d'euros en caisse à l'intercommunalité. Ils ont été dépensés en 3 ans. Même vos mentors socialistes vous dédisent dans la presse, monsieur Zilliot. Pour conclure, je dirais que je suis triste. Triste de vos insultes, triste de me dire que je suis... Comment avez-vous dit ? Repoussé à l'opposition. Mais l'opposition, monsieur, fait un travail et je le fais. Et puis je vous rappelle au passage que vous avez perdu 200 voix sur monsieur Lambertin. Alors vous n'avez pas de quoi vous féliciter. Pour conclure, donc, je dirais que je suis triste. Triste pour ce territoire. Triste pour le Nord-Vaucluse qui se paupérise, qui voit les entreprises partir, notamment de grandes entreprises qui faisaient notre fierté. Je pense notamment aux leaders européens du matériel apicole, présent à Bolène depuis 50 ans. Triste de constater qu'il y avait d'ailleurs écrit dans la presse sa propre tristesse à lui. Triste de constater qu'après 6 ans d'exercice, vous n'avez toujours aucune vision pour ce territoire. C'est un budget triste que vous présentez ce soir et vous allez encore donner plus de tristesse à cette population qui souffre énormément des coups de boutoir de votre cher président Emmanuel Macron.
Monsieur Lambertin.
Je ne peux pas laisser dire un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. Une nouvelle fois, Madame Bompard est égale à elle-même. Eh oui, je sais très bien ce que vous avez fait pendant des années lorsque j'étais président de l'intercommunalité. Vous avez même essayé d'empêcher que l'on construise même la gendarmerie. Vous avez fait des procédures. Vous avez empêché de travailler tout le monde autant que vous avez pu. Donc vous n'avez pas de leçon à venir donner aujourd'hui. Vous tenez absolument le même langage qu'il y a des années. Je me souviens, c'était pareil. Il fallait rien faire à l'époque. Alors, vous aviez eu un peu de chance, puisqu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas la loi NOTRe, il n'y avait pas la possibilité d'engager un certain nombre de compétences nouvelles. Ça a été fait après moi, et je m'en félicite qu'il y ait eu cette loi, qui a pu permettre à l'intercommunalité d'intervenir dans un certain nombre de domaines pour le bien-être des habitants de nos communes. Alors il faudrait un petit peu arrêter le discours et il faudrait revenir un petit peu à la réalité, c'est-à-dire que depuis 10 ans, même davantage, vous répétez toujours la même chose. La ZAC, vous le savez très bien, il n'y a jamais eu moyen de s'entendre, la loi n'était pas avec nous, il n'y a jamais eu moyen de s'entendre pour qu'on puisse développer cette ZAC. Votre objectif à l'époque était uniquement d'empêcher de travailler pour que l'Interco ne puisse rien faire. On a attaqué, je vous l'ai dit, la gendarmerie, il y a des procédures qui ont duré des années, on a essayé de refuser le permis de construire, etc. Ça n'a pas arrêté, c'était insupportable et c'était à l'encontre de ce que le territoire attendait. Voilà. Quant au palais de l'intercommunalité, combien de fois vous me l'avez reproché à l'époque, mais essayez de vous imaginer actuellement, s'il n'y avait pas le bâtiment de l'interco, s'il n'y avait pas la gendarmerie, s'il n'y avait pas la cuisine centrale, eh bien, comment se passeraient les choses? Et cela aurait bien dû être fait après moi. Donc, un peu de modestie, arrêtez de dire un petit peu n'importe quoi. Ça suffit.
Merci, Monsieur Lambertin. Monsieur Moussy avait demandé la parole.
Merci, Président. C'est une question à la fois profane et technique. On a, dans le compte 73, 25 millions d'impôts, et on a, dans le chapitre 14, une atténuation de produits de 15 millions d'euros. Je suppose, mais je ne suis pas féru en comptabilité publique, qu'il s'agit du compte 739, atténuation des taxes et impôts. Donc, en fait, l'impôt réellement perçu sur le comité des communes. Et la différence, ce serait que 10 millions. Donc ça prouve que la charge des entreprises est un peu moindre que ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que c'est ça, Président?
Oui, je vais vous répondre. Madame Bompard va demander la parole.
Monsieur Lambertin, je comprends que de vous citer dans les propos tels que je l'ai fait puisse vous mettre en colère, mais ce sont vos propos. Et ils étaient quand même assez durs. Alors c'est vrai que selon où l'on se place, on a une vision différente, un petit peu comme madame tout à l'heure. Quant au permis, monsieur, il y avait un problème administratif. C'est que c'est la ville de Bolène, puisque c'était sur le territoire de Bolène, qui devait instruire, et non pas l'État. C'était juste ce problème-là, parce que s'il y avait eu des problèmes par la suite sur le bâtiment, c'est la ville, non pas moi, mais la ville qui était responsable alors qu'elle n'avait pas instruit le permis. C'est juste le droit à l'urbanisme et les compétences sont bien définies dans la loi. C'est tout ce que j'ai demandé, que la loi soit respectée. Par ailleurs, encore une fois, je n'ai fait que citer vos propos, alors que ça soit vous dérange à vous aujourd'hui, c'est probable, mais c'est la vérité, c'est ce que vous avez dit il y a quelques mois. Ensuite, on le voit bien, on le sait bien, Marie l'a dit tout à l'heure, on affiche un excédent de 3 millions, alors qu'on n'a pas enlevé le 1,8 million dû à la ville et le 1,5 million dû à l'interco, dû par la ZAC de Mondragon. Donc, même ce bilan-là est négatif. Alors, ça peut vous mettre en colère. Et c'est vrai, monsieur, que moi, je ne change pas d'avis. Moi, je me bats pour Bolène. Vous avez décidé, quand vous avez été battu en 2014, de laisser tomber la politique. Vous avez dit, plus jamais je reviens, plus jamais je serai là. Je préfère aller pêcher la truite. On en avait même plein la presse. Bon, finalement, vous êtes revenu. Vous faites des déclarations qui vous gênent après, mais ça, c'est votre problème, pas le mien. Ensuite, monsieur Mossi, le revenu fiscal... par l'interco, monsieur, mais là aussi, il faut aller chercher dans les chiffres, C'est le deuxième du Vaucluse. Le deuxième du Vaucluse, ce sont les chiffres officiels. Hein. Et le 12e de France.
Bien, merci.
Pour le président.
Oui, oui, monsieur Lambertin.
Pour en finir, donc, le tribunal administratif et même la cour d'appel sur le permis de construire vous a complètement donc, pas donné raison. Donc ce que vous dites est faux. Voilà. Puisque la gendarmerie est liée, c'est fait, et il a fallu des années pour que tout ça soit jugé. Donc là-dessus, aucun problème.
Bien, merci à tous pour ces questions. Je vais répondre à M. Mossi, puisque c'était, à mon sens, l'intervention la plus pertinente. Pour lui préciser que, en effet, vous avez raison, l'atténuation de produits, on y retrouve un petit peu dedans, si vous voulez, l'ensemble de l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, ce qui fait que vous avez 15 millions, et dedans, il y a les 10 millions d'AC, etc., ce que je viens de préciser. Et puis, vous avez, par contre, sur l'impôt et taxe au 73, en effet, 25 millions 608. Alors ça représente principalement la fiscalité que vous retrouvez, d'ailleurs, dans le budget principal, sur la section de fonctionnement, dans le détail des recettes, sur le chapitre 73. Donc vous avez les impôts directs locaux pour 14 500 000. La cotisation sur la valorisation, donc la VAE, la CVAE, 3,3 millions, taxes sur les surfaces commerciales à 580 000, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour 603 000 euros, et puis vous avez un peu de FNGIR, un peu 4 425 000, ce qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez sur ça. Donc vous retrouverez ce détail-là sur l'ensemble de ça doit être le chapitre 3 sur le vote du budget dans le cadre du BP, sur le projet de budget qui vous est proposé. Je veux juste venir préciser un peu ce budget que nous vous proposons. Je remercie Madame Ricard de l'avoir dit tout à l'heure. Nous souhaitons faire rentrer ce territoire et cette collectivité dans une nouvelle ère. Et je crois que tous ceux qui nous ont accordé leur confiance ne se sont pas trompés sur notre volonté. Nous sommes fiers de présenter ces orientations qui renforcent le rôle de notre intercommunalité, qui accompagnent notre territoire, notamment sur les orientations que nous avions pu discuter, vous l'avez rappelé, Monsieur Perron, sur à la fois l'investissement local, et contrairement à ce qui a pu être dit, d'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord sur les orientations gouvernementales, notamment sur la rupture de soutien à l'investissement public local, avec la réduction des impôts de production que j'évoquais, et qui ont un impact d'ores et déjà sur nos finances. Notation de solidarité communautaire qu'on avait donc envisagée à 2,2 millions d'euros, 1,5 million d'euros de fonds de concours à terminer. Et tout ça, je dirais, dans un contexte extrêmement, je dirais, sain, puisque nous n'augmentons pas, et vous l'avez vu, le vote des taux, même si vous avez pu vous rendre compte qu'on ne vote plus les taux que nous n'avons plus la maîtrise, notamment le vote des taux de la taxe d'habitation, qui a été une volonté du président de la République de vouloir la supprimer. Par contre, ce qui est important de venir préciser, c'est que, et je veux répondre à quelques assertions qui sont tout le temps balayées, même si je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que je crois que ça appartient à un autre temps qui n'est plus celui-là, mais sur la question de l'exercice 2021, ma majorité a décidé de continuer à défendre et à protéger les habitants de notre territoire, de notre population. Ici ou là, on se pose pas forcément les mêmes questions, je dirais, et d'ailleurs les habitants ne sont pas aussi réceptifs aux propositions qui viennent d'être présentées, notamment par vous, madame, mais je crois que sur l'ensemble des dispositions que nous avons pu prendre par le passé et que nous continuerons à maintenir, notamment sur la Covid-19 et l'impact que nous avons pu avoir sur, je dirais, le prendre soin de la population, à la fois sur le centre de dépistage qui est utile, et le centre de vaccination également, dans la contrainte des doses que nous disposons pour pouvoir vacciner la population. Rappelez un peu aussi que nous avons prévu sur ce budget 2021 1,2 million d'euros, 800 000 en investissement et 400 000 en fonctionnement, sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques d'inondation. C'est là aussi un point fort de protéger les populations, toujours, de défendre, de protéger sur les risques d'inondation. Et je salue d'ailleurs le vice-président Garcia qui a pu porter haut et fort, et très fort, les orientations financières pour faire en sorte de pouvoir assurer la défense et les protections, et notamment sur la question de la protection de la population contre les risques d'inondation du Lez, puisque c'est un sujet pour lequel nous avons désormais la charge. Enfin, vous l'avez dit, et le vice-président Lambertin assurera justement au 1er juillet ce transfert de la compétence liée à la mobilité. C'est important de venir le préciser, parce que c'est des éléments qui sont extrêmement fort. Je le redis, mais c'est une nouvelle façon de voir le territoire plutôt que de voir affronter des communes parce qu'elles ne possèdent pas forcément la même sensibilité politique comme ça pouvait être par le passé. Nous avons décidé d'être au-dessus de tout ça pour faire en sorte de porter des politiques publiques qui finalement prennent soin des habitants et ne les prennent pas en otage de querelles politiques, ce qui nous a été tant reproché par le passé et que je salue de ne plus subir désormais. En ce qui concerne le pôle médical intercommunal, vous l'avez vu, on aura l'occasion de le préciser, c'est un pôle médical intercommunal qui joue un rôle majeur sur le territoire, qui est porté en totalité par l'action de l'intercommunalité, dont les charges de personnel, vous l'avez souligné tout à l'heure, sont portées donc par le budget général, 6 médecins généralistes, 5 spécialistes, 2 cabinets d'infirmières, un centre de la vision demain, un cabinet dentaire, qui assure aujourd'hui ce que finalement la population voulait sur le territoire et que d'autres avaient lâchement refusé quand cela leur avait été proposé. Enfin, en tant que maire de Bolène et président de l'intercommunalité, je veux juste venir préciser que Bolène va finalement reprendre sa place, celle qu'elle n'aurait jamais dû perdre, par polémique politicienne, pour être le moteur d'une intercommunalité que nous voulons au service de la population et pas au service d'un parti politique. La ville-centre a été retenue dans plusieurs dispositifs. Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est une bouffée d'air. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'intercommunalité et la ville-centre travaillent main dans la main et il est important de dire que les projets peuvent se développer plus facilement dès lors que la ville-centre a été retenue dans des labellisations qui vont rendre dynamique le territoire au travers de labellisations dont l'État va mettre des millions et puis surtout dans le cadre du plan de relance où nous avons commencé, et j'en dirai quelques mots, ça me donnera l'occasion de répondre aux 1,8 million de la ZAC que vous avez prévu, que vous avez proposé pardon, tout à l'heure. C'est tout le territoire qui va pouvoir bénéficier de ce dispositif-là. C'est faciliter à la fois la transversalité des compétences, faire en sorte que la commune centre ne devienne pas la commune contre toutes les autres, mais la commune qui accompagne l'ensemble des autres, et je crois que c'est très important de le dire. Et nous irons d'ailleurs plus loin, et j'aurai l'occasion de faire des propositions dans ce sens à la fin de cet exposé. Enfin, un pacte de gouvernance, un projet de territoire qui vont redonner de la visibilité et de la cohérence, à la fois sur de la fiscalité, à la fois sur des compétences qui sont exercées, pour finalement ramener cette cohérence à nos politiques publiques, une place finalement que va reprendre notre intercommunalité dans le département de Vaucluse. Alors, en ce qui concerne toutes les informations, d'ailleurs, qui sont des mensonges, mais bon, ça n'en fait pas des vérités, même si ça fait 12 ans qu'ils sont répétés, juste venir préciser quelques sujets. D'abord, je crois que sur l'aboutissement des projets, preuve est de constater qu'aujourd'hui, l'ensemble des projets que nous avons pu porter, à la fois sur l'entretien des équipements scolaires élémentaires, sur l'entretien des bâtiments qui nous sont désormais dévolus, des voiries intercommunales, mais aussi des projets qui nous permettent, au travers du budget en APCP, de venir accompagner. Et nous ne pouvons pas faire autrement, puisque désormais, nous allons pouvoir travailler sur des compétences partagées, alors qu'il y avait toujours des suspicions, des doutes et des cabinets d'avocats qui nous traînaient devant la justice pour faire appliquer des décisions qui étaient ridicules, tellement ridicules que la population nous disait dans la rue que nous étions plus risibles que constructeurs d'un territoire. Et je crois que nous allons désormais leur en montrer la preuve que ce n'était pas de notre faute. En ce qui concerne ce budget d'APCP, vous avez évoqué la maison du terroir. Je veux juste venir préciser que cette maison du terroir s'inscrira parfaitement dans le paysage de la ville, puisque, vous le savez certainement, nous allons faire à l'aval du pont de Chabrière les travaux de protection de la ville de Bolène, qui seront les premiers travaux, le premier phasage des travaux de protection. Nous avons réuni d'ailleurs les riverains du chemin d'Entraigues et nous avons proposé d'y mettre des places de stationnement qui permettra de donner une cohérence à notre projet de maison du terroir pour faire en sorte de l'accompagner. Il n'y a pas dans le projet de la maison du terroir de salle d'exposition, comme vous avez pu habilement le dire, mais bien une maison qui à la fois regroupe un petit office de tourisme, parce que la partie était plus importante et nous l'avons réduite. Et enfin, nous avons fait développer des commerces dont nous avons commencé les états de commercialisation. Ils sont très loin de ce que vous venez de dépeindre. Enfin, sur le fait de taxer moins les entreprises, moi, écoutez, je suis très fier de pouvoir, avec ma majorité, continuer à accompagner au travers des dispositifs d'aide les entreprises et les commerces qui souffrent dans ce moment important, et nous continuons à le faire, et je salue d'ailleurs la plateforme initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale. Je veux vous renvoyer, madame, à vos leçons que vous cessez de nous faire depuis maintenant une heure sur le fait d'augmenter, de faire en sorte de baisser les taxes quand certains qui vous inspirent ne font que les augmenter, et notamment sur la CC Pro, puisqu'elles ont augmenté sur l'ensemble de la fiscalité qui a pu être faite. En ce qui concerne le fait que nous ayons, je dirais, stérilisé des parcelles, puisque c'est un peu ce terme que vous évoquez, je ne crois pas savoir que ce que là où nous sommes aujourd'hui apporte une grande richesse financière à notre collectivité, et pour autant nous avons gelé des terres qui étaient les plus fertiles entre le Rhône et le canal, et pour autant vous ne vous êtes pas à ce moment-là ému de quoi que ce soit. Enfin, rappeler, madame, parce que vous avez tendance à l'oublier, que les nuisances sur des hectares, c'est vous qui les avez portées, et notamment par la signature de vous et de votre adjoint à l'urbanisme qui est présent ce soir, sur les permis d'aménager qui ont permis de débloquer, et les études de circulation le prouvent, à hauteur de 580 camions par jour entre la ZAC de Bolène et l'autoroute. Preuve, s'il en est, encore une fois, que les nuisances, nous les héritons de votre gestion et que nous n'en avons pas créé de supplémentaires. En ce qui concerne la gestion de la ZAN, je crois que le vice-président Jean-Pierre Lambertin vous a répondu, mais ça mérite quand même de vous informer. Vous avez eu la fâcheuse tendance pendant des années de parler pour tout le monde au sein de votre majorité, nous sommes très sensibles au respect et à l'identité de chacun. Et au sein de cette majorité, comme je l'ai toujours dit, on n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais on était d'accord sur l'essentiel, faire en sorte que ce territoire se porte mieux. Et sur l'ensemble des propositions qui ont pu être faites, oui, j'ai pu dire que la ZAND n'avançait pas, et je ne change rien de ce que j'ai dit, parce que je l'ai toujours dit et je l'ai toujours illustré au travers des propos. Et je regrette que nous n'ayons pas fini la commercialisation de la ZAND, je le dis publiquement, mais nous n'avons pas pu le faire parce que, tout simplement, la personne qui devait acheter le dernier lot, le lot 7, n'a pas pu débloquer les fonds financiers, si bien que nous avons eu une lettre d'intention pour un autre, porteur de projet, qui a débloqué la situation et pour lequel nous allons délibérer très vite pour faire en sorte de régler définitivement le problème de la ZAND. Et si j'ai dit que je n'étais pas d'accord sur la méthodologie, j'assume pleinement, contrairement à vous, madame, comme j'assume pleinement l'état dans lequel vous nous laissez la ville de Bolène, j'assume pleinement ce qui a pu être fait par le passé, parce que je crois que c'est de la responsabilité des élus que de faire en sorte, quand on gère de l'argent public et de l'argent du contribuable, que de faire en sorte de s'inscrire dans quelque chose qui permet d'être beaucoup plus vertueux. Et je veux venir rappeler ici, sur la question de la ZAND, et on pourra en parler pendant des heures, on en parlait à l'époque sur la question du développement économique, où je vous rappelle qu'entre 2008 et 2014, vous n'avez pas siégé qu'une seule fois à la commission de développement économique, alors que vous étiez membre, un peu comme celle du budget où vous n'avez pas voté, où vous n'étiez pas présente en commission de travail, et où aujourd'hui vous nous dites avec Madame Ricard que finalement vous êtes laissé pour compte, vous n'êtes pas associé. C'est moi qui vous ai voulu à la commission finance, qui vous ai même proposé. Vous ne le vouliez pas forcément, et preuve s'il en est, vous assistez pas aux commissions, preuve s'il en est de votre assiduité au travail. En ce qui concerne la question des emprunts, ce sont des emprunts de commercialisation, Madame Bompard. Je crois que ça n'a pas été marqué dans votre fiche par la personne qui vous a rédigé vos notes, mais l'ensemble des budgets que vous évoquez sont des budgets soumis à l'emprunt parce que c'est des budgets de stock. Et lorsque vous voyez un déficit sur la zone d'activité de la croisière, je pensais que vous auriez compris, c'est parce que tout simplement la commercialisation n'a pas eu lieu. Et donc, tant que la commercialisation n'a pas lieu, en effet, on part avec un déficit. Et c'est un budget de stock qui va être rentabilisé dès lors que les parcelles vont être commercialisées, puisque nous avons aujourd'hui un déficit à rattraper par rapport à la commercialisation. En ce qui concerne le 1,8 million qui aurait obéré nos finances, Madame Bompard, là encore une fois, ont fait preuve de beaucoup d'amateurisme, puisque les 1,8 million sont sur un budget annexe et qu'ils n'obèrent pas le budget principal, puisqu'ils sont sur le budget annexe consacré à ce détail-là. Enfin, je veux juste rappeler sur la question des 1,8 million, ça me donne l'occasion de le faire. On connaît votre fâcheuse tendance à saisir les cabinets d'avocats dès lors que vous sentez attaqué ou pas dans votre droit. Je crois savoir que si j'avais pas respecté le droit, j'aurais déjà été traîné devant les tribunaux pour faire en sorte d'appliquer le 1,8 million que vous ne pouviez pas avoir puisque vous ne respectiez pas vous-même les orientations du PLU qui étaient déjà dans le programme d'aménagement et d'orientation. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Enfin, les entreprises qui partent, ben, je ne pense pas trahir un secret même si on est retransmis sur les réseaux sociaux, mais il me semble que la personne qui est partie, que vous venez de citer, qui a d'ailleurs fait un très bel article précisant un petit peu des raisons de où ça venait, que vous avez d'ailleurs, vous êtes empressé de l'appeler, puisqu'il m'a rappelé après, pour lui dire que vous n'étiez pas contente de ce qu'il avait pu dire dans la presse, que ce n'était pas sérieux, sur l'entreprise qui partait. Je crois savoir, madame, qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas en capacité de faire en sorte de proposer quoi que ce soit sur le territoire. Et les entreprises aujourd'hui qui quittent le territoire, comme vous le dites, et puis alors vous dites des wagons d'entreprises, et puis vous en citez qu'une, comme vous faites toujours, c'est finalement plus votre responsabilité que la nôtre. Enfin, je veux simplement préciser que nous avons fait le choix de, dans cette bonne nouvelle finalement que le peuple nous a donnée, en faisant en sorte de ne pas vous reconduire à la tête de la ville de Bolène, nous avons finalement, en respect de leur choix, pu mettre en place des stratégies de travail qu'on aurait aimé faire par le passé. Ce n'est pas la question de Zilio et quoi que ce soit, puisque tous les présidents qui se sont succédés ne sont pas arrivés à travailler avec vous. Preuve, s'il en fallait encore la démonstration, que le problème vient bien de vous et pas de ceux qui se sont succédés. Mais je veux venir préciser une chose. L'ensemble des cinq maires de cette intercommunalité, qui a des recettes exceptionnelles et que beaucoup nous envient sur le département de Vaucluse, je vous l'accorde, fait en sorte de porter des projets, d'abord dans le cadre de compétences qui est le sien, et ça c'est très important, et il faut dire que sur les 12 dernières années, vous avez rendu la tâche quand même très difficile, puisqu'avec votre majorité de blocage, vous avez empêché l'ensemble des compétences à être transférées, si bien que la seule qui a été transférée, c'est celle qui était avant vous, la restauration collective, puisque celle-ci avait été votée avant votre arrivée. En ce qui concerne le choix que nous venons de faire, et ça me donne l'occasion de porter notre territoire avec un peu plus de hauteur et un peu plus d'ambition et dynamisme que ce que vous le réduisez à chaque fois, nous avons décidé pour l'année qui s'ouvre, là, cette année 2021, de faire en sorte de continuer à prendre soin et protéger les populations. Et c'est pour ça, et d'ailleurs nous commençons à l'esquisser, nous commençons à le travailler, nous faisons la proposition suivante, qui mérite à être développée, mais de continuer à prendre soin de la population, mais de ne pas prendre soin que des habitants de Bolène, mais prendre soin de l'ensemble des habitants du territoire. Et donc, nous le faisons par solidarité, parce que je crois profondément, madame, et j'en suis complètement convaincu, que le territoire intercommunal est par définition le territoire qui exprime le plus la solidarité, des compensations de ceux qui ont peut-être moins. On a fait des beaux projets. Je vois le maire de la Motte-du-Rhône. On a fait des beaux projets sur l'économie à la Motte-du-Rhône qui ont un succès. On a fait en sorte de rétablir une équité sur l'ensemble du territoire. Ce n'était pas forcément gagné d'avance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes animés par la même volonté, celle de faire, par exemple, la question de la santé, des orientations qui sont en discussion, que nous aurons l'occasion d'ailleurs de discuter, de travailler, de faire en sorte d'avoir des pôles de centralité, notamment sur la question du pôle médical, avec ses spécialistes, mais de faire en sorte, finalement, de ne pas laisser pour compte l'ensemble des habitants, et surtout de ne pas monter les populations les unes contre les autres, de mettre les Bolénois par leur richesse contre les autres, etc. Parce que ce temps-là, il est profondément révolu. Et donc, nous ferons en sorte d'accompagner l'implantation de médecins généralistes sur l'ensemble du territoire de Rennes-Est-Provence, parce que je crois que la population a le droit aux soins, et que c'est une proposition que je présente dans ces budgets 2021, de faire en sorte que Rennes-Est-Provence, quand encore une fois certains ont démissionné sur ces questions, nous puissions porter haut et fort le fait que tout le monde puisse se faire soigner, sans faire des dizaines de kilomètres, mais de pouvoir le faire dans sa commune, comme elle prétend le faire par le passé, et qu'elle ne puisse pas le faire. Nous allons donc travailler très sérieusement à faire en sorte que l'ensemble des médecins généralistes qui pouvaient quitter le territoire ou qui sont partis puissent rester sur l'ensemble des communes pour faire en sorte de les accompagner. C'est une nouveauté que je vous fais là sur les propositions, mais il était important de venir le préciser pourtant, je crois, le débat a été extrêmement bas sur l'ensemble des petites questions insignifiantes. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons fait en sorte d'accompagner le développement économique, et je salue la vice-présidente Laurence Desfonds-Fargeon. Nous avons fait en sorte de pouvoir faire, de protéger le porte-monnaie des habitants, et je salue l'ensemble des maires de ce territoire et l'ensemble de la majorité qui ont finalement pas fait ce que la simplicité et la facilité nous auraient permis de faire sur l'augmentation des impôts, parce que c'est important de le dire, que dans ce moment-là, nous devons plus que prendre soin des habitants et préserver leur porte-monnaie. Nous le faisons et nous en sommes très fiers. Et puis, nous n'avons pas, madame, mais, enfin, si les gens étaient hors sol et qu'ils connaissaient pas un peu